On a commencé le chantier le 3 octobre, donc on est resté un peu plus d'un mois et demi sur site. Voilà, on a eu la chance d'avoir du très beau temps en octobre, ce qui nous a permis d'avancer. Mais paradoxalement, un soleil de fin d'année était une lumière qui n'était pas pratique pour nous, parce que les vestiges, il ne faut pas s'imaginer que ce sont des murs ou des architectures, mais ce sont ce qu'on appelle les vestiges en creux. Donc des fossés, des fosses, sauf qu'ils sont comblés. Et donc, pour nous, pour pouvoir les reconnaître, c'est la différence de couleur de terre. Et donc, quand la lumière du soleil est trop forte, on n'arrive plus à voir les différences de couleurs, donc on n'arrive plus à voir la présence des vestiges. Voilà. Mais bon. Et puis, on a eu quelques jours de pluie, et donc là, effectivement, nos sondages sont un peu noyés parfois, mais on arrive à s'en sortir quand même.
Et comment on fait, justement, quand les sondages, ils sont pleins d'eau?
Eh ben, on les vide, hein. Donc on prend des seaux, on écope, on prend des éponges pour fignoler. Voilà. Bon, là, c'est plus le cas, c'est plus nécessaire. Mais c'est vrai que dans le courant de la fouille, il a fallu éponger tout ça, en effet.
Ça rebute pas un peu au travail quand il y a des jours de pluie, quand les conditions sont pas favorables?
C'est vrai que c'est pas toujours très motivant. Mais bon, c'est le métier, on est habitué aussi. On est dur à la tâche. Et on est équipé aussi. Mais après, effectivement, quand c'est insupportable, au bout d'un moment, on est obligé de ranger nos affaires et puis de se mettre à l'abri, bien sûr.
Comment vous avez délimité le terrain de fouille?
Alors, l'emprise de la fouille elle-même a été déterminée par un arrêté préfectoral. Donc, c'est le ministère de la Culture qui détermine exactement à quel endroit on doit ouvrir notre fouille archéologique. Donc, on décape sur une profondeur de 50 cm. Enfin, c'est variable, c'est en fonction du niveau d'apparition des vestiges. Et cette emprise, elle est déterminée sur la base des résultats du diagnostic qui a été réalisé préalablement, en l'occurrence l'an dernier.
Est-ce qu'il y a des témoignages, des textes qui racontent qu'il y avait une activité sur ce site?
Alors, pas pour les périodes qu'on a mises au jour ici. Donc, période antique, on n'a pas de témoignages sur l'existence d'une nécropole. Et puis, encore moins, bien sûr, pour la période de âge du bronze, qu'on a réussi aussi à mettre en évidence sur le terrain.
Est-ce que vous pouvez nous parler du résultat des fouilles que vous avez fait ici?
Ici, les fouilles ont livré les vestiges d'un secteur funéraire d'époque gallo-romaine, du 4e siècle après Jésus-Christ. Enfin, c'est ce qu'on pense, parce que pour l'instant, l'étude n'est pas terminée. Ce secteur funéraire est caractérisé par l'existence de 5 enclos rectangulaires de petite taille. Donc on est entre 9 et 12 mètres de côté. Et ces enclos, en fait, se matérialisent par des fossés. Un fossé continu, rectangulaire. Et normalement, au sein de ces enclos, on est censé avoir des sépultures, donc des fosses à inhumation. Sauf qu'en fait, sur cette fouille précisément, on ne les a pas trouvées. Et donc l'interprétation du secteur comme un secteur funéraire est liée à des comparaisons avec des sites identiques ou semblables qui ont été fouillés par nos collègues archéologues de l'INRAP, donc que ce soit à Châteauneuf-du-Fou, à Pouescat, à Gouénard, etc.
Donc arrivé à la fin du chantier, qu'est-ce qu'il vous reste à faire sur le site?
Sur la fin du chantier, on est en train de solder un peu son compte au site et on est en train de faire dans l'urgence tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire avant. Ça consiste essentiellement sur des activités de dessin, donc dessin de section, c'est du dessin technique, hein, c'est pas rien d'artistique là-dedans, des prises de clichés, etc. Tout ce qui va pouvoir nous renseigner après coup, pendant l'étude, sur la stratigraphie, donc les différentes couches superposées au sein des vestiges découverts. Donc si on ne fait pas ce travail de relevé, d'enregistrement graphique, on perd complètement le site. Or, le but, justement, de pouvoir le restituer. Donc là, on est vraiment en train de relever, de dessiner tout ce qui nous reste à dessiner. Donc des petites coupes par-ci, par-là, dans des sondages.
Et après la fouille sur le chantier, il vous reste quand même du travail à faire?
Voilà, on a toutes les données qu'on a accumulées, enregistrées patiemment sur, comme je disais, des dessins, sur des clichés photographiques, sur des fiches d'enregistrement, donc les patients de description, etc., un peu méticuleuses, toutes les données, les mesures, etc. Tout ça, maintenant, doit être traité, analysé, interprété, et donc ça prend pas mal de temps. On n'a pas trouvé non plus beaucoup de ce qu'on appelle l'immobilier, donc des fragments de poterie, qui sont habituellement les indices les plus précieux pour nous, pour analyser le site. Donc je disais, on n'a pas beaucoup, mais on en a quand même, et donc les nettoyer, les étudier, les dessiner, et les interpréter aussi. Donc tout ça, ça prend pas mal de temps. Il faut faire aussi des datations au carbone 14, donc sur les fragments de charbon qu'on a pu prélever justement, au sein des fossés, au sein des enclos. Là aussi, ça a des délais. Donc globalement, on estime qu'on pourra rendre le rapport final au bout de 18 mois.
Comment ça se fait qu'on trouve des morceaux de charbon sur ce genre de fouille, sur un cimetière?
Alors le charbon, il suffit d'un incendie quelque part, il suffit d'un barbecue, il suffit de noir le charbon, c'est produit, il y a toutes les possibilités quoi. Hein, donc effectivement, après ça rentre dans les sédiments. Bon, c'est vrai qu'il y a des endroits précisément où effectivement on trouve plus de charbon, plus de cendres. Par exemple dans les incinérations, on parle de tombes, hein, tombes à incinération. On en a trouvé une petite en vase, donc les restes incinérés d'un être humain qui a été déposé en tombe dans un petit vase sur le terrain. Sinon, il y a aussi des foyers alimentaires. Pour les périodes néolithiques ou même pour la période de l'âge du bronze, on a des, ce qu'on appelle des foyers à pierre chauffée. Donc c'est des pierres et puis des couches de charbon en dessous.
En gros, il y a deux périodes en fait, sur le site. Pendant le diagnostic qu'avait fait le CDA également, le service, ils avaient trouvé des enclos antiques, donc là où ils se trouvent, et ce grand fossé, qui est plutôt a priori de l'âge du bronze par rapport au... à l'étude Céramo d'une personne. Et il va en fait carrément recouper, enfin il y a un enclos qui recoupe carrément le fossé, donc ce qui est assez intéressant. Et ensuite au niveau proto, on a également un autre fossé qui part plus vers le nord avec des petits calages de poteaux en pierre. Et après bah, le site antique, donc avec 5 enclos en tout. Donc le premier là, le plus profond. Et sinon, ils sont un peu beaucoup moins profonds. Et là où se trouve Ninoc, c'est une zone assez intéressante parce que vu que le fossé proto et l'enclos antique se recoupent, on a vraiment une bonne superposition des périodes. Et puis également de la période récente, donc avec cache d'armes ou autres qui viennent recouper les structures archéologiques et puis des trous d'obus un peu partout également. Et la grande ligne là que tu vois, qui traverse le site, alors les petites tickets jaunes qui sont alignées, c'est probablement ce qui servait pour mettre des poteaux avec des barbelés. Parce qu'il y a un tobrouk juste derrière la voiture, où il y a le tas de terre et un tobrouk.
Vous avez trouvé des objets ou c'est plus sur la structure que vous avez trouvé des résultats ?
Les structures, on les date de l'Antiquité par rapport à d'autres sites qui existent en Bretagne. Et sinon, au niveau mobilier, c'est très pauvre. À part quelques tessons dans les fossés proto, mais pas forcément convaincants. On a surtout du charbon, donc il faudra attendre les datations.
Explique-nous ce que tu fais ici.
Donc ici, on a 5 enclos funéraires, datés de la fin de l'Antiquité pour l'instant. On attend les résultats des datations. Donc ici, notamment, on a un dernier enclos qu'on a découvert en entier, qui est particulièrement intéressant parce qu'il y a plusieurs phases chronologiques qui sont sur cette fenêtre. Tout d'abord, on va retrouver une cache d'armes de la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'un impact de bombe qui va grignoter un tout petit peu les côtés de l'enclos. Après, on va avoir donc le fossé de l'enclos, qu'on va reconnaître par son aspect quadrangulaire, et qui lui-même a coupé un fossé proto-historique. Donc c'est un peu un méli-mélo chronologique que nous, on a essayé de comprendre. Et donc pour comprendre, il faut descendre, il faut creuser.
Et comment on arrive à discerner les différentes périodes ?
Alors ça va être une histoire de terre de différentes couleurs, de différentes textures, que nous, on va utiliser des unités stratigraphiques, qu'on va appeler US. Et donc chaque unité stratigraphique, on va essayer de voir jusqu'où elle va. On va fouiller chaque unité stratigraphique, une par une. Donc par exemple une couche brune très foncée, on va enlever toute la couche brune très foncée et en dessous on va trouver une couche qui est plus claire. Et donc on va s'arrêter là et on va voir ce que ça donne.
Vous pouvez vous présenter aussi le travail que vous faites ici sur le site.
Bertrand Graal, je suis technicien donc, au département, je m'occupe de tous les relevés topographiques. Et donc sur ce site, nous relevons en fait toutes les structures qui apparaissent. Alors d'une part pour en faire un dessin, et puis d'autre part pour avoir l'intégralité du site en 3D.
Quel matériel vous utilisez pour faire ça ?
Alors, comme vous pouvez le voir ici sur le terrain, nous avons une station totale. C'est en fait un appareil de topographie avec un ordinateur intégré qui vous permet de calculer en 3D chacun des points relevés.
Alors aujourd'hui, pour le dernier jour de fouille, qu'est-ce que vous avez fait ?
Alors, c'est un peu la bousculade, hein, comme toutes les fins de chantier. Là, c'est un peu une course contre la montre où il faut en fait restituer l'emplacement de chacun des dessins qui ont été réalisés manuellement sur le terrain. Donc ces dessins, ce sont de ce qu'on appelle des coupes. Hein. Donc comme vous pouvez le voir là, vous avez des fossés dans lesquels vous avez des excavations et à l'extrémité de ces excavations bien nettoyées, c'est ce que l'on appelle une coupe. Et donc ce sont des lectures de terrain. Hein. C'est comme si vous ouvriez un livre et vous cherchiez à le feuilleter. Eh bien, il est extrêmement important pour nous de relever avec précision chacune de ces coupes.
Par exemple, les tracés vert fluo, ça sert à quoi ?
Donc là, vous avez vu que pour les relevés, donc nous sommes deux actuellement. Donc vous avez une personne, un opérateur derrière la machine et un opérateur sur le terrain. Donc l'opérateur sur le terrain, pour qu'il puisse savoir ce qu'il doit prendre, très précisément, eh bien, les fouilleurs laissent une trace au sol pour lui indiquer l'endroit où il doit poser une canne surmontée d'un prisme. Donc c'est le prisme qui renvoie le rayon, et donc vous devez positionner votre canne sur ce point qui est bombé sur le terrain.
Donc c'est des repères qui ont été marqués au sol.
Oui, tout à fait. C'est une aide.
Donc vous regroupez votre travail, mais aussi le travail des autres techniciens qui font les dessins de coupe.
Je viens surtout en appui, hein, je viens compléter leurs relevés de telle sorte à ce que ces relevés soient référencés au niveau national. C'est une obligation d'État de restituer toutes les coordonnées en Lambert 93.
C'est quoi le Lambert 93 ?
C'est un système de référencement donc, qui est commun à tous les topographes en France, qu'ils soient en archéologie, dans le BTP, qu'ils soient géomètres experts, etc. Voilà, nous avons tous le même référentiel. Et donc, nos coupes, nos levées de terrain peuvent être vues et localisées par les aménageurs, par les terrassiers, etc.
Et en post-fouille, vous pouvez reproduire après le site
Il faudrait des milliers de points pour constituer le site. Donc, ça reste du plan. Ça permet d'avoir les grandes lignes en 3D.